Bienvenue à La FEN & Co, les collégiales de La FEN. On est à l'épisode numéro 67 et aujourd'hui nous allons aborder un sujet passionnant qui est celui du podcast. Qu'est-ce que le podcast vient faire en formation? Et pour cela, on a la chance d'avoir Thibaut de Saint-Maurice qui est un homme passionnant et qui a eu une expérience qui est d'actualité puisqu'il est le fondateur du Paris Podcast Festival. Et donc, il va nous expliquer pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir monté un festival, en quoi c'est intéressant et comment est-ce qu'on peut faire soi-même un podcast, est-ce que c'est réaliste, réalisable dans de bonnes conditions, et puis enfin, en formation, ça veut dire quoi? Eh bien, bonjour Thibaut.
Bonjour Stéphane.
Enchanté. Alors, première question, pourquoi avoir fait un festival Thibaut de Saint-Maurice?
Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on est en France, et donc en France, on a besoin d'organiser un petit peu les choses si on veut que une pratique culturelle, une pratique médiatique un peu émergente soit reconnue et trouve davantage son public. Moi, je suis pas du tout un professionnel du podcast, hein. Moi, dans la vraie vie, je suis prof de philo. Voilà, ça n'a pas grand-chose à voir, mais je suis un auditeur passionné de podcast. Et en fait, avec voilà, un peu d'envie, et puis c'est aussi une aventure voilà, collective, hein, mais avec un peu d'envie, on se dit... moi, j'avais envie de partager, en fait, ces contenus, ces podcasts que j'ai découverts il y a à peu près 3 ans. J'ai écouté énormément, j'ai trouvé des choses vraiment formidables, et je me suis dit, tiens, c'est vraiment dommage que ce ne soit pas davantage... davantage pratiqué, davantage connu. Les gens écoutent beaucoup la radio, les gens sont très friands de contenu de séries, voilà, il y a un vrai appétit pour des histoires en plus feuilletonnantes, sérielles, des récits documentaires. Et donc, voilà, l'idée après, ça a été de participer un petit peu de cet enthousiasme autour du podcast, mais en créant un événement qui puisse rassembler la communauté podcasteur. Et en même temps, faire de la pédagogie auprès du grand public et essayer de développer, ou en tout cas de développer un peu, ou de gagner un peu plus la bataille de l'usage.
Bah, très bien. Et alors, ça s'adresse plutôt aux professionnels de la profession ou c'est une vitrine pour tout ce qui se fait dans le podcast pour les usagers?
Non, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment un festival. C'est pas un salon professionnel.
Oui.
Donc, on est bien sur un format d'événement qui est gratuit, ouvert à tous, et qui doit porter la bonne parole de la découverte du podcast auprès du plus grand nombre. Donc, il n'y a pas de stand de professionnels. On est au contraire sur un format classique avec des avant-premières, des lives et puis des rencontres dédicaces avec des podcasteurs. Le public peut les rencontrer, poser des questions. Voilà. Donc, on est sur un format très classique de festival, mais à destination d'un format un peu nouveau et émergent. Et par exemple, comme on est sur un format classique de festival, eh bien, on a aussi une compétition officielle, par exemple, avec un palmarès, un jury, un palmarès et des prix que l'on remet pour récompenser ce qui semble être, en tout cas, le meilleur d'une saison de podcast.
Alors, est-ce qu'il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'il y a des stars des podcasts?
Alors, en tout cas, il y a deux choses. Il y a d'abord des podcasteurs qui sont en train de construire des communautés vraiment assez impressionnantes et qui sont en train de venir... ce qu'on pourrait appeler vraiment des leaders d'opinion, quand ils sont sur des sujets de société, ou bien qui sont en train de construire une œuvre à la croisée du récit médiatique et de la création pure, et qui en sont en train de construire des œuvres singulières. Alors par exemple, sur les sujets de société, je pense à quelqu'un comme Victoire Tuaillon, qui a un podcast qui s'appelle « Les couilles sur la table », produit par Binge Audio, qui est un podcast aujourd'hui qui est une des voix les plus écoutées dans les milieux de ce qu'on appelle le nouveau féminisme, hein. Ces collectifs, voilà, par exemple celui qui organise la marche du 23 novembre prochain, le collectif Nous Toutes par exemple, voilà, c'est des collectifs qui écoutent énormément Victoire et Les Couilles sur la Table, ou toujours dans ce registre de la parole féminine, ou en tout cas de la voix des femmes. On peut penser aussi à Lorraine Bastide avec son podcast La Poudre, ou bien à Charlotte Bien-Aimée et son podcast qui s'appelle Un podcast à soi. Voilà, par exemple, sur ces sujets-là, en quelques mois, à peine un an, ont émergé, voilà, des voix qui sont aujourd'hui connues et reconnues. Alors, bien sûr, pas les auditeurs de podcast, mais pour vous donner un exemple, Lorraine Bastide, qui donc est l'hôtesse du podcast La Poudre, eh bien, a été invitée déjà à décliner, par exemple, son concept de podcast sur la grille d'été de France Inter l'été dernier.
Très bien, oui,
Donc,
effectivement.
voilà,
Et
il y a une.
est-ce que finalement ce sont des gens qui viennent du monde de la radio? Quel est leur profil en fait?
Non, alors on n'a pas de données précises hein, sur la sociologie des podcasteurs. On a des données plus précises maintenant sur les auditeurs, mais pas encore sur les podcasteurs. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des parcours très différents. Néanmoins, sont. Alors, moi, je dirais qu'il y a, comme ça, hein, vraiment de manière donc peu qualifiée comme chiffre, mais en tout cas qui correspond à la réalité que j'ai pu constater, me semble-t-il. En gros, il y a un tiers de podcasteurs aujourd'hui qui sont des jeunes gens ou des jeunes filles qui se lancent, ou bien parce qu'ils sortent d'écoles de journalisme, d'écoles de cinéma, ou tout simplement qu'ils ont une passion dans la vie et qui veulent en l'ordonner autour d'un podcast. Ça représente à peu près un tiers de ces podcasteurs-là. Il y a un tiers de gens qui sont en fait des gens effectivement qui ont fait un passage à la radio, qui ont une expérience radio. Et puis qui ont décidé de s'en éloigner, ou bien parce qu'ils ne pouvaient pas porter les sujets qu'ils voulaient porter en radio, ou bien parce que, en fait, bah, la radio, il y a des plafonds de verre, notamment pour les jeunes femmes. C'est-à-dire que les grilles sont quand même, voilà, les micros de radio sont quand même extrêmement trustés par les hommes. Voilà, c'est une réalité, hein. Il suffit
Bien sûr.
de regarder les grilles et de voir qui tient le micro. C'est majoritairement des hommes. Donc, beaucoup de jeunes femmes ou de femmes plus âgées qui, après un certain passage en radio, ont décidé de prendre elles-mêmes le micro, voilà, et de lancer leur podcast. Et puis, il y a un dernier tiers de gens avec des parcours assez divers qui, ou bien sont des journalistes qui mettent une nouvelle corde à leur arc, ou bien des scénaristes ou des documentaristes qui ont travaillé pour un peu pour la télévision, un peu pour le web, et qui aujourd'hui découvrent le format. Et en fonction, en fiction, par exemple, il y a davantage de scénaristes. En documentaire, il y a davantage de journalistes. Voilà. Donc, il y a un dernier tiers de gens avec des parcours assez divers, mais qui découvrent en fait le format et dans lequel ils vont en fait explorer leur talent d'écriture qu'ils ont pu tester sur d'autres formats. Et là, ils vont le tester sur le format audio.
Comme type de format, si on reste du côté de l'offre, c'est plutôt des interviews, plutôt des gens qui font des monologues. Comment ça se présente? Si
Alors,
on
il y a des
voyait.
formats extrêmement divers. Nous, on a essayé, par exemple, à travers la compétition qu'on met en place, on a essayé de faire une première catégorisation de ces formats, alors qui est forcément un peu artificiel. Mais pour vous donner un exemple, on a distingué donc le podcast de fiction, donc un podcast qui, à travers au moins 3 épisodes, raconte une histoire qui est une histoire de fiction. Alors, on peut être sur des formes encore très proche du livre lu ou de l'histoire lue, ou aller sur vraiment de la série audio avec un casting voix, avec de l'illustration sonore, avec du bruitage, et voire jusqu'au son immersif binaural dans lequel en fait on est totalement son 3D, hein, dans lequel on est complètement plongé. Par exemple, c'est ce que fait France Culture avec ses fictions natives. France Culture a produit plusieurs fictions natives, de séries donc de fictions natives en 10 épisodes en son binaural avec le savoir France Culture, mais uniquement en podcast et seulement en podcast. Ça ne fera pas l'objet d'une diffusion sur la grille. Voilà. Donc on peut avoir une première catégorie de fiction. Nous, on a distingué une deuxième catégorie qu'on appelle la catégorie documentaire, qui en fait constitue tout ce qui est podcast en lien avec une actualité sociale. International, culturel, etc., mais dans lequel le récit est un récit de non-fiction, en fait, un peu selon la catégorie anglo-saxonne. On a distingué ensuite une catégorie qu'on appelle le podcast d'apprentissage. Là aussi, c'est issu un peu du monde du podcast anglo-saxon, puisque eux, ils ont la catégorie de smart podcast, qui sont des contenus, en fait, un peu tutoriels ou un peu didactiques. Alors, tout ça est assez proche parfois de ce qu'il y a eu avec les MOOC, par exemple, et la façon dont on peut transmettre de la connaissance à travers ces formats numériques. Mais on peut aussi s'en émanciper beaucoup. Et ça peut être simplement un podcast qui apporte de la connaissance, de la réflexivité sur des phénomènes sociaux. Voilà, le podcast, par exemple, qui aujourd'hui a été lauréat de cette catégorie du podcast d'apprentissage au Palmarès 2019. C'est un podcast qui s'intitule, qui s'appelle Écoute ça, et qui, dans chaque épisode, en fait, décortique l'album d'un musicien, d'un auteur-compositeur-interprète. Il le décortique piste par piste, en fait.
D'accord.
Et donc avec à la fois des explications sur comment est-ce que en fait ça a été fabriqué, et en même temps on apprend plein de choses sur les conditions d'un enregistrement, sur la musique, hein, sur les harmoniques, les modes majeurs, les modes mineurs, etc. Donc voilà, ça c'est un podcast d'apprentissage. Et puis
D'accord.
enfin il y a une catégorie aussi qu'on a identifiée, qui est le podcast de conversation, qui lui réunit autour d'une table au moins une autre personne que l'hôte ou l'hôtesse du podcast. Ça peut être une personne, format d'interview classique, en one-to-one, ou bien ça peut être un plateau de 4-5 personnes. Ces 4-5 personnes peuvent être des membres réguliers d'une sorte de bande qui se donne rendez-vous à un rythme régulier et que l'auditeur retrouve. Un peu style, par exemple, Masque et la Plume, pour donner l'idée d'une référence de radio, d'une émission de radio bien, bien connue, dans laquelle on retrouve chaque semaine, un peu les mêmes critiques pour parler ou bien de théâtre, ou bien de cinéma, ou bien de littérature. Il y a beaucoup de podcasts de bande, par exemple, autour du jeu vidéo, autour des séries, autour du cinéma, mais aussi, par exemple, autour des relations entre les hommes et les femmes, autour de l'écologie, autour de l'économie, autour voilà, plein, plein d'autres sujets, des questions de domination, des questions
Bien sûr.
de discrimination. Voilà pour le podcast de conversation. Et enfin, pour être
Pardon,
tout à
il
fait
manquait.
concret, pardon, une toute dernière catégorie qu'on a fait émerger cette année, qui est le podcast jeunesse à destination
Ah,
des
très
enfants.
bien, ouais. Et donc, alors dans tous ces podcasts, on dit souvent que sur la production de podcasts, on est en retard par rapport à des pays anglo-saxons comme les États-Unis. Est-ce qu'on fait assez de podcasts en France?
Alors, le paysage est très différent pour une raison simple, c'est que en France, on a un paysage audio qui est structuré autour d'une très très gros opérateur qui est Radio France, qui est la radio publique, et qui en fait depuis voilà début de l'ERTF, en fait structure profondément le paysage audio. Et donc, le premier opérateur de podcast aujourd'hui, c'est la radio. C'est
D'accord.
la radio publique. Premier opérateur de podcast mélangé, c'est-à-dire réécoute et natif. Maintenant, il y a, et c'est ça qui moi m'intéresse, un nouveau paysage qui se constitue autour d'une production native, c'est-à-dire un podcast qu'on écoute seulement en podcast et qui n'est pas issu d'une grille de programme diffusée par une radio. Sur le podcast natif, aujourd'hui, ça va très très fort. Voilà, chaque semaine quasiment, il y a des nouveaux podcasts. Et la radio elle-même produit du natif, hein. Aujourd'hui, toutes les chaînes de Radio France produisent du natif. Europe 1, RTL, Nova, RMC produisent du natif. Radio Classique produit du natif.
Ça, c'est pour le
Aujourd'hui, toutes
jingle.
Ouais, voilà, pardon. Toutes
Non.
les chaînes généralistes produisent du natif. Par rapport au paysage américain, ce qu'il faut dire, c'est qu'aux US, la radio publique est très faible. NPR, c'est une très bonne radio, mais qui a très peu d'auditeurs. Il y a beaucoup de radios de radio privées, qui sont principalement des radios locales, dans lesquelles il y a de la conversation et de l'info locale ou de la musique. Voilà. Et donc, un podcast qui va être disponible, et il faut le dire aussi pour les US, ça compte pour tout le monde, en fait, sur tous les fuseaux horaires à un niveau national, etc. Et ben, oui, ça a plus de chances de trouver son auditeur. Et puis, ils ont un peu plus d'avance. Ils ont commencé un peu plus tôt. Et en tout cas, comme le paysage audio est moins structuré, trusté par les radios, il y a beaucoup plus d'oreilles à prendre, en un sens.
Exactement. Puisqu'on parle des auditeurs et que vous avez fait une étude très intéressante, alors qui écoute les podcasts?
Alors oui, effectivement, ça nous tenait super à cœur et on est très très heureux d'avoir pu proposer en lien avec deux partenaires formidables que sont l'Institut CSA et le service des études de Havas, qui se sont totalement en fait emparés de cette nouvelle forme culturelle, de cette nouvelle forme de récit. On a pu présenter en ouverture du festival la première étude sérieuse, c'est-à-dire construite sur des méthodes d'études de l'opinion qui sont voilà qualifiées, respectées, respectables. On a pu présenter donc la première étude sur le portrait robot d'un auditeur de podcast natif en 2019 en France. Le premier chiffre, c'est qu'aujourd'hui, 9% de la population française, c'est-à-dire 3,4 millions de personnes, ce qui est quand même pas rien non plus, ce qui n'est pas négligeable hein, comme phénomène, 9% de la population française écoute un podcast natif régulièrement. Alors, régulièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins une fois par semaine. Au moins une
D'accord.
fois par semaine. Pour mémoire, hein, dans les études du ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français, quelqu'un qui va au cinéma de façon régulière, c'est une fois par mois. Voilà. Alors, bien sûr, ça coûte plus cher, ça dure plus longtemps, etc. Mais on est sur un auditeur régulier, donc une fois par semaine, 3,4 millions de Français. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est un auditeur régulier, on écoute en fait 5 à 6 podcasts différents en même temps. Voilà. Donc il
D'accord.
y a tout de suite en fait un grand appétit pour ce format, ce qui fait qu'on suit en fait tout de suite, dès qu'on est converti en un sens, on suit tout de suite plusieurs fils de podcasts parce que bah, je crois on est séduit par la fraîcheur du ton et par la façon dont les histoires se racontent.
Et bien sûr, c'est en progression puisqu'on partait de peu. Donc, ça a que vocation à progresser en termes d'audience.
Oui, il y a un autre chiffre qui est très intéressant, c'est que 67% des auditeurs réguliers le sont depuis moins d'un an.
Oui,
Voilà. Donc
complètement.
67% des 3,4 millions là, donc c'est pas trop fait le calcul, mais on doit être autour de 2 millions, 2 millions 7, 2 millions 8. Eh bien, en fait, ils sont depuis moins d'un an. Donc ça veut dire qu'en un an, on a gagné voilà presque 2 millions d'auditeurs, ou un peu plus de 2 millions d'auditeurs à
C'est
la
énorme.
louche. Ce qui est énorme, c'est-à-dire que la progression est absolument considérable. Et ce qui est intéressant, c'est que les études similaires qui existent pour les États-Unis, notamment à travers une étude qui s'appelle Podcast Consumer de l'Institut Edison Research, montrent des taux de progression. Eux, ils le font depuis 2014 et c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est des plus 120, 130, 140% d'année en année, quoi.
D'accord. Donc c'est un marché en émergence.
Alors, marché, c'est compliqué parce que aujourd'hui, la monétisation de cette pratique, elle est en question. Moi, je vais dire d'abord que c'est une pratique. C'est une
D'accord.
pratique numérique, culturelle et médiatique qui est en plein essor. Au sein de cette pratique, commencent à apparaître des pratiques de monétisation. Et donc, se constitue l'embryon, un peu plus que l'embryon. Aujourd'hui, on va dire voilà, la version 1. D'un marché du podcast, mais ça n'est qu'une partie à l'intérieur d'un ensemble de pratiques qui concernent donc ces 3,4 millions de Français.
Avant de revenir sur la monétisation, sur les gens qui écoutent des podcasts, est-ce que c'est tout public ou c'est une segmentation particulière, les hommes ou les femmes, comme on parlait tout à
Alors,
l'heure?
ouais, dans ce portrait robot, il faut aller jusque-là. Ce que cette étude nous apprend, c'est qu'il y a un tout petit peu plus d'hommes qui écoutent le podcast que les femmes. C'est l'affaire de voilà, 50, 55, 55, 45% hein, de proportion entre hommes et femmes. En fait, on peut l'expliquer par le fait que les pratiques numériques sont, quand elles sont encore bien maîtrisées ou émergentes, encore l'héritage d'une sorte de ce qu'on appelle la culture geek, qui est quand même majoritairement masculine. Ensuite, 58% de ces auditeurs hebdo ont moins de 35 ans.
D'accord.
À presque deux tiers, ils ont moins de 35 ans, sachant que la concentration se fait entre 24 et 35 ans. C'est là où il y a la plus grosse proportion parmi les auditeurs réguliers. Et puis, en revanche, un fait très significatif, c'est que 70% de ces auditeurs de podcasts natifs habitent dans des villes de plus de 100 000 habitants, alors que voilà, c'est juste 49% de la population française. Donc il y a une surreprésentation des populations plutôt jeunes, des populations urbaines et de centres de grandes villes.
Un peu CSP+.
Alors sur les effectivement, il y a une surreprésentation des cadres des professions libérales, puisque l'étude nous apprend qu'ils sont 27% de ces auditeurs réguliers à être cadres ou professions libérales, tandis que c'est 10 points presque 10 points de plus hein, que dans la population française en général, puisque c'est 19% de la population française qui est cadre ou profession libérale. Et 12% sont étudiants, donc là c'est 5 points de plus hein, que la population française. Donc on a une surreprésentation de gens qui sont effectivement plutôt diplômés.
D'accord. Ce qu'on retrouve aussi sur ceux qui vont plus vers de la culture et de la veille, ce sont plutôt des gens, c'est les mêmes qui se forment davantage, c'est ceux qui sont en contact et qui réactualisent leurs connaissances et leurs compétences. Et puis il y a des
Oui,
gens qui y vont pas du tout.
évidemment, mais sans doute parce qu'en fait, ils y trouvent un bénéfice immédiat. C'est-à-dire qu'ils y trouvent un bénéfice immédiat, ou bien immédiatement d'un point de vue professionnel, ou bien est-ce que, en fait, parce que simplement, ils continuent d'entretenir un capital culturel qui leur permet de trouver un bénéfice en termes de pouvoir social, ou en termes de, ou même tout simplement de sociabilité, de rencontres et de statut, quoi.
Bien sûr.
Donc, de ce point de vue-là, en tout cas, ce que l'étude montre, c'est que elle s'inscrit dans cette logique du positionnement social et culturel que les individus diplômés ont à travers leurs pratiques culturelles.
On parlait tout à l'heure de la monétisation. Est-ce qu'on peut en vivre d'un podcast ou est-ce que ce sont des amateurs, au sens étymologique, des gens qui aiment la matière qui s'en occupent?
Alors non, aujourd'hui, alors il y a deux choses. Il y a effectivement des podcasteurs qui vivent de leur podcast en indépendant. On a par exemple programmé là cette année au festival Patrick Béja qui a un podcast qui existe depuis 5 ans qui s'appelle Le Rendez-vous Tech et qui lui gagne sa vie, vit de ça parce qu'il a construit autour de lui une communauté qui aujourd'hui le soutient, finance en fait son podcast et pas que Le Rendez-vous Tech hein, puisqu'il développe 3 ou 4 podcasts toujours dans ce domaine, ce sujet de la tech et de l'informatique. Et donc, aujourd'hui, c'est presque une sorte de média lui tout seul. Et il est financé par une partie de ses auditeurs.
Par des outils comme Patreon, ou Tipeee ou
Exactement.
des choses comme ça. D'accord.
Exactement. Et donc, ça inspire d'autres podcasts, d'autres podcasteurs qui essayent de suivre aussi un peu ce chemin-là.
J'ai cru voir qu'il expérimentait de la publicité.
Voilà, alors ça c'est la deuxième nouveauté de qui arrive très fort cette année, c'est
D'accord.
la monétisation publicitaire. En fait, jusqu'à présent, les régies ne savaient pas très bien comment faire pour vendre de l'espace. D'abord parce que, bon, en fait, ils ne connaissaient pas forcément le format, et puis ensuite, les audiences étaient parfois un peu faibles pour pouvoir avoir un coût. C'est des coûts inspirés de la presse, hein, un coût par 1 000, un coût par 10 000, etc., qui devait être pertinent. Aujourd'hui, les choses se sont affinées et donc il y a en fait des régies qui se constituent et qui sont capables de mettre en place des offres intéressantes. Et donc le grand sujet là, c'est la monétisation publicitaire. C'est ce que propose Spotify pour les podcasts qui diffusent, c'est ce que propose une régie comme Acast, c'est ce que proposent plein d'autres régies comme voilà, Plink Media, Target Spot par exemple. Qui sont des régies de l'audio digital et qui ont enfin mis en place une offre podcast natif pertinente et qui permet donc de placer de la publicité le plus souvent en pré-roll, donc au début du programme, après ensuite en post-roll et très très rarement en mid-roll, mais très rarement. On n'est pas tout à fait habitué à ça en France, le mid-roll. Et donc l'argent de la publicité commence à arriver. Alors attention, hein, c'est pas non plus voilà une déferlante. Hein. Ça reste voilà ce qu'on appelle la podcast money n'est pas en train de tomber du ciel. Mais en tout cas, c'est une structuration qui est assez évidente sur cette saison 2019. Et puis.
C'est le podcast comme média. Est-ce qu'il existe des podcasts privatifs qui seraient un petit peu des organismes de formation où à la limite on paye et on a toute une série de fictions sur une connaissance ou une compétence? Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est uniquement un média ouvert?
Non, alors pour répondre à votre question de ce point de vue-là, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a des pure players du podcast qui sont apparus cette année. comme par exemple des plateformes type Cybele, Magellan ou Toutac. Et les deux premières, Cybele et Magellan, ont une production originale, c'est-à-dire un peu sur le modèle de Netflix, hein, c'est-à-dire qu'on est une plateforme de diffusion avec une interface mobile, hein, principalement, enfin essentiellement. Et pour justifier de l'utilisation de ce service pour Cybele ou de l'abonnement pour Magellan, puisque Magellan a une offre payante, eh bien,
Magellan, je crois que c'est une structure française.
oui, les deux sont des structures
Les
françaises.
deux sont françaises, d'accord, je connais.
Oui, absolument. Les deux sont des structures
Très bien.
françaises et c'est en fait des startups quoi qui se sont lancées sur ce sujet avec des grosses levées de fonds et qui aujourd'hui bah, essayent de se répartir le gâteau de l'audience. Et eux donc développent une offre de fiction ou de documentaire en exclusivité originale qu'on ne peut écouter que sur leur plateforme pendant ou bien tout le temps ou bien pendant un temps donné avant d'être ensuite diffusé sur d'autres plateformes. Mais il y a un modèle effectivement donc de création de produits de contenus originaux. Et puis il y a un dernier modèle qui est celui en fait alors qu'il à différents degrés, qui est celui du podcast sponsorisé. Alors il peut être simplement sponsorisé par une marque et ensuite c'est un podcast qui a sa liberté éditoriale, ou bien il peut être en fait un podcast produit par une marque comme outil de communication ou comme simplement outil de plaidoyer de l'engagement de la marque pour, je sais pas, parler de transition écologique, parler de cohésion sociale, parler de... Voilà. Et ça, c'est aussi un outil qui marche très très fort parce que ça permet en fait à la marque une prise de parole qui est affranchie du 30 secondes télé ou du 1:30 YouTube. Qui permet d'arriver sur 10, 12, 15, 20 minutes de messages, donc d'apporter une certaine forme de complexité, de valeur ajoutée, et de partager beaucoup plus largement des valeurs ou une vision du monde. Alors bien sûr, ce n'est pas des millions de vues sur YouTube, sauf que en fait, on s'adresse à une audience qui sera nettement plus engagée par 20 minutes de messages, et qui donc en termes de réception de messages et ensuite de bouche à oreille, d'engagement, etc., ben, en fait, c'est un choix, hein, mais c'est une nouvelle corde à l'arc de la prise de parole des marques.
Il vaut mieux avoir une petite communauté dynamique qui s'engage plus facilement qu'une grosse communauté qui est très consommatrice et finalement qui favorise pas l'engagement.
Ben, il me semble que c'est ce qu'on est en train de comprendre de cet Internet, de cet Internet des réseaux qu'on est en train tous de vivre, hein, c'est que l'Internet, en fait, n'est pas un média de masse. Internet n'est pas un média de masse. Internet, c'est pas le média de tous, c'est le média de chacun. En fait, c'est un média de communauté.
Exactement.
Et on le voit sur les réseaux ou même au-delà des réseaux, une communauté engagée, elle peut faire beaucoup de bruit et elle peut offrir une base à des revendications sociales ou culturelles extrêmement fortes. On le découvre chaque semaine. Au départ, MeToo, c'est pas un mouvement majoritaire. Voilà. Donc, et pourtant, c'est en train de changer la face du monde. Il faut voilà, c'est pas un média
Donc
de masse.
tout est possible à condition d'être militant de quelque chose.
Alors, militant, oui, et surtout à condition d'avoir une proposition ou bien un message ou bien une proposition créative qui en fait justifie l'attention que l'auditeur va accorder à ce message, parce que l'auditeur il a besoin de personne, hein, il est sursollicité. Il a aujourd'hui juste trois coups de pouce à mettre sur son écran tactile pour arriver à n'importe quel type de contenu, de la vidéo, du jeu, du réseau, des rencontres, enfin tout se mélange. Donc si on veut gagner son attention, en fait aujourd'hui il n'y a qu'une seule solution, c'est la pertinence de la proposition du contenu. Voilà, la pertinence du contenu. Alors oui, il y en a qui diront oui, bah, si on a beaucoup d'argent aussi, on peut aussi pousser des contenus et on peut
Bien
faire
sûr.
voilà, mais on n'engage pas.
Exactement.
Et d'ailleurs, ce qui est drôle, hein, c'est qu'aujourd'hui, c'est une période formidable pour les créateurs, en fait, que nous, on a rencontrés et mobilisés au festival, parce qu'ils sont littéralement, pardon, hein, mais dragués par les marques, les plateformes, etc., pour pouvoir produire des messages et des fictions, des documentaires, etc., qui vont avoir une grosse valeur créative, une grosse valeur ajoutée, et qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir se distinguer dans l'ensemble des sollicitations.
Oui, effectivement. Et alors, si justement quelqu'un voulait se lancer aujourd'hui, quelqu'un qui est complètement néophyte, il se dit, ça me plaît, je vais créer mon podcast natif, comment est-ce qu'il fait?
Alors, comment est-ce qu'il fait? D'abord, comment dire, il vient au festival.
Oui, très bien.
Il a
Donc, chaque
trouvé.
année, il y aura... Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une troisième session.
Absolument, il y aura une
Très bien.
troisième édition. On va essayer d'inscrire ça un petit peu dans la durée, de travailler un peu ce sillon-là. Non, non, je plaisante.
C'est
Non,
important.
aujourd'hui, d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que, en fait, il est encore possible aujourd'hui de lancer son podcast. Un peu comme, vous savez, au début des années 2000, il était possible de lancer un blog et en fait de conquérir un lectorat avec un blog bien tourné, bien senti, bien écrit, qui apporte de l'information et qui trouve la bonne distance par rapport à son public. Voilà, avant d'avoir des youtubeurs, on a eu des blogueurs dans la mode, dans la santé, dans la cuisine. Voilà. Et on a eu des blogueurs qui étaient en fait les premiers influenceurs. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça c'est possible avec un podcast. Ça demande quelques moyens techniques supplémentaires, mais pas beaucoup. Un simple enregistreur.
Il faut un budget.
Oui, il faut un budget. Alors on l'a pas complètement évalué parce que c'est aussi une communauté où il y a énormément d'entraide, où il y a
D'accord.
énormément de gens qui se prêtent du matériel ou qui s'accompagnent sur un montage ou qui voilà, c'est encore une communauté de pionniers, de passionnés,
Sûr.
donc avec toute une sorte de lien informel qui en fait dispense d'un très lourd investissement. Donc ça, c'est possible. Après, et c'est assez simple parce qu'ensuite, une fois qu'on a fabriqué son contenu, il est assez simple ensuite de l'administrer à tout le monde à travers deux choses. La première, c'est un hébergeur. Il existe aujourd'hui des gens qui vont prendre votre fichier audio, qui vont l'héberger, qui vont lui donner une adresse, c'est-à-dire un flux RSS, et avec ce flux RSS, qui vont pouvoir vous l'envoyer sur toutes les plateformes.
Aujourd'hui, ceux qui sont les plus faciles, les plus ergonomiques et les moins chers, c'est quoi?
Alors, y en a alors, on a plusieurs, mais disons que principalement en France, on peut s'adresser à Ocha ou à Acast. Ils proposent à peu près la même chose, Ocha, Acast. Ils proposent en fait des offres. Alors, certains, c'est un abonnement mensuel, ça coûte 15 euros par mois, ou enfin voilà, il y a différentes offres. Ou en fait, ils proposent d'héberger. Alors généralement, c'est sans limite hein, de taille, hein, on peut héberger voilà, tout ce qu'on veut. Et donc de générer ce flux RSS et de le pousser sur toutes les plateformes. Et en échange de ça, en fait, ce qu'ils proposent, c'est du coup une interface sur laquelle le podcasteur a accès à énormément de données. C'est-à-dire combien d'écoutes, quand, sur les dernières 24 heures, dans ce qu'ils écoutent par quart d'heure, ce qui est le taux de complétion, c'est-à-dire alors si les gens écoutent jusqu'au bout ou pas, enfin, par quart d'heure, mais ça peut être par minute, en fait. La répartition géographique des gens qui écoutent, enfin, voilà. Et en fait, ces hébergeurs-là aussi proposent de plus en plus, de façon intégrée, de la monétisation publicitaire. Voilà, je fabrique un contenu, je paye un prestataire qui va en fait le diffuser, qui va être qui va l'envoyer, on va dire, à des diffuseurs qui sont les plateformes de diffusion en y intégrant ou non, c'est-à-dire si je suis d'accord ou pas, enfin en y intégrant de la publicité ou non. Voilà. Donc ça c'est aujourd'hui tout à fait possible. Après, il y a une autre manière de faire qui consiste à avoir un projet de fiction, de documentaire ou d'apprentissage ou ce que vous voulez et d'aller chercher un producteur. Parce qu'il existe aujourd'hui déjà des boîtes de prod, de podcasts, qui lancent des programmes, d'aller chercher un producteur, et ensuite, comme pour la télévision, par exemple, le producteur va chercher un diffuseur, donc Spotify, Deezer, Cybelle, Audible, de Magellan, voilà. Et puis, bah, le programme se fait si le producteur dit oui et si le diffuseur dit oui.
Et techniquement, une fois qu'on a l'hébergeur, le diffuseur, est-ce qu'on a besoin d'un investissement micro, des choses comme ça, d'un ordinateur particulier ou pas
Alors,
vraiment?
non, c'est assez simple. Alors d'abord, pour toutes les questions vraiment techniques, je me permets juste de renvoyer sur le site Paris Podcast Festival, paripodcastfestival.com, puisqu'on peut réécouter des ateliers qu'on a faits
Bah,
pendant le
très bien.
festival en octobre dernier, il y a 3 semaines. On peut les réécouter, et notamment, il y a toute une après-midi, il y a 4 épisodes qui font 4 fois 1 heure, qui répondent justement à cette question, comment lancer son podcast avec des gens qui sont des experts, qui sont des faiseurs
Très
et qui
bien.
donnent des tas de conseils. Voilà, c'est tout est
On
gratuit.
mettra tous les liens dans les notes de
Et
l'émission.
tout est gratuit, c'est en accès libre, il n'y a pas d'exploitation commerciale, on ne gagne pas d'argent. Enfin, voilà, c'est très. Voilà, tout
Bravo.
va bien.
Donc ça,
Donc,
c'est la
non,
partie technique, mais donc
juste,
par
en
contre,
fait,
la partie
il faut un logiciel
production.
de montage.
Pardon.
Voilà, mais il
Oui.
existe des choses gratuites. Il faut, avec un téléphone et un connecteur XLR, on peut brancher un micro et ça peut faire un enregistreur ou on peut acheter un enregistreur aussi. Enfin, voilà, pour moins de 500 euros, on peut avoir le matériel qui permet de fabriquer son propre épisode. Ensuite, aujourd'hui, il est important d'avoir une cover, c'est-à-dire en fait un petit logo de son podcast. C'est le petit carré là qu'on voit apparaître dans le Apple Podcast ou dans Spotify, etc. C'est important d'avoir une cover qui soit distinctive. Donc souvent, il y a un petit frais de création graphique là-dessus. Et puis après, ça dépend des compétences techniques qu'on a, mais il est bon de créer une identité sonore à ce podcast, c'est-à-dire un générique ou un pré-générique ou des virgules qui vont permettre en fait de voilà. Et donc ça, ou bien on fait un appel à un prestat, un réalisateur ou un studio, ou bien on est capable de le faire soi-même. Donc voilà, ça c'est pour la question un peu technique de la fabrication. Après, une fois qu'on a payé ce prestataire qui va nous permettre de diffuser nos contenus, si on veut développer son audience, alors là, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, c'est du temps passé sur les réseaux pour engager sa communauté. Voilà. Et c'était le message qui était passé là par tous les gens qui ont fait des formations, c'est de dire le temps que vous allez passer à fabriquer votre contenu. Et tant que vous allez passer, je sais pas, une semaine à faire un épisode de 20 minutes, parce qu'il y a de l'interview, parce qu'il y a de la recherche, etc. Et ben, il faut imaginer que vous allez passer au moins le même temps, en fait, à faire du réseau pour le diffuser, pour le faire connaître, pour que les gens, pour en fait conduire les gens à votre contenu. Voilà. Ça sert à rien de faire un podcast si on ne se soucie pas de la manière dont les gens vont le trouver. Voilà. Donc
Sur du Facebook, LinkedIn, des réseaux de ce type.
Alors, des réseaux de ce type, mais avec une logique vraiment active. Il ne s'agit pas juste de le poster sur Facebook. C'est-à-dire, c'est entrer dans un phénomène de communauté, donc. C'est-à-dire, il y a des listes de diffusion sur les podcasts francophones, d'aller chercher des relais de gens qui sont sur l'angle ou du podcast, enfin, qui est celui du podcast qu'on a fabriqué, etc. Tout ça fait qu'il faut construire, en fait, un travail de. En fait, de réseau, oui, mais de façon active. Voilà, suivre les bons comptes, relayer d'abord leur publication, puis ensuite pousser la nôtre, etc., etc.
Très bien. Donc
Et
ça
ça
donne
donne.
envie d'aller télécharger les épisodes. Donc ça, c'est la partie technique. Peut-être
Oui.
la partie contenu. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux? On parlait des équipes, des formats, en disant des formats courts, des formats plus longs. Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur?
Alors, c'est très surprenant, hein. On peut avoir des épisodes qui durent 2 heures, 2 heures et demie et qui marchent très bien auprès d'une communauté, hein, quand le sujet les engage et les passionne. Pour le dire simplement, aujourd'hui, on est sur le format qui marche le mieux est un format qui autour de 20 minutes, entre 20 et 25 minutes d'épisode. Et après, c'est vraiment difficile de sortir de dire, voilà, ce qui marche, c'est la fiction ou c'est le documentaire sur tel sujet, etc. Parce que ça reste encore aujourd'hui très, très ouvert. Aujourd'hui, on peut dire ce que le podcast a apporté vraiment nouveau comme type de contenu, c'est la tranche de vie, le récit de vie. Je pense à un podcast comme Transfert, ou je pense à beaucoup de podcasts de Arte Radio. Voilà, ou un podcast qui s'appelle Super-Héros de Julien Saint-Nobory. L'idée, c'est de dire que la parole des gens ordinaires, les histoires des gens ordinaires ont un peu disparu des médias généralistes. Il y a quelques résurgences, enfin, quelques survivances Il y a quelques années encore, il y avait par exemple quelque chose comme Striptease à la télévision, ou encore sur France Culture, mais parce que c'est peut-être France Culture aussi, on a tous les jours une émission qui s'appelle Les Pieds sur Terre, qui est une demi-heure justement de rencontres avec des gens ordinaires. Mais sur les autres médias généralistes, finalement, les gens ordinaires ont disparu, ou alors ils sont là pour jouer, pas pour parler d'eux, quoi. Le podcast fait ça. Le podcast permet aux gens de raconter des histoires qui sont parfois très intimes. Mais qui, en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire plus on est intime et plus l'intime est réfléchi, plus en fait il est universel et il concerne beaucoup de monde. Donc ça, c'est un premier genre, le podcast récit de vie. Et puis il y a un deuxième sujet sur lequel le podcast a vraiment remis les pendules un peu à l'heure, c'est toutes les discussions autour des questions de genre, des questions de sexualité, des questions de domination. Et surtout des contenus pris en charge par des jeunes femmes et qui comment dire, s'expriment et construisent en fait une information ou une documentation du réel qui n'est justement pas filtrée par des rédactions tenues par des hommes ou par des médias qui sont là aussi beaucoup plus compliqués à investiguer, enfin à pénétrer parce que en fait verrouillé aussi par une pensée masculine, oui,
Bien
qui
sûr.
fait qu'elles sont beaucoup moins écoutées. Donc voilà, tous les contenus autour de ce qu'on pourrait appeler les questions de genre, d'identité et jusqu'à la militance féministe et le récit des gens ordinaires. Ça, c'est deux grandes tendances qui ont porté le podcast français. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein de choses très très différentes.
C'est un monde ouvert. Et vous m'avez dit qu'il y avait une catégorie sur les podcasts apprenants.
Ouais, alors ça c'est une catégorie, c'est assez fort aux US, dans le monde anglo-saxon, ce qu'on appelle le smart podcast. C'est le podcast que je vais écouter et qui va m'apprendre des trucs, qui a vraiment comme visée première de me transmettre une connaissance. Voilà, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire apparaître en France cette année et c'est une catégorie qui est vraiment pertinente. Alors ça regroupe par exemple beaucoup de podcasts autour du développement personnel, qui sont une catégorie assez bien. Il y a un podcast qui marche très très fort, qui a des centaines de milliers d'écoutes tous les mois, qui s'appelle Change ma vie. Et voilà, il y a un autre podcast autour des émotions qui s'appelle Émotions justement et qui marche très fort aussi pour aider les gens voilà à vivre leurs émotions, à créer de la enfin à poser de la réflexivité sur ce qu'ils vivent et ce qu'ils traversent et donc voilà ça c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais c'est aussi des podcasts sur par exemple l'entrepreneuriat, sur le management, sur la finance. Sur la recherche universitaire. Voilà, il y a plein de secteurs comme ça dans lesquels, en fait, un ou deux experts, pour le coup, prennent la parole. Enfin, il y a énormément de podcasts, par exemple, d'apprentissage en informatique, un peu héritier justement des blogs ou des forums de culture geek sur la sécurité informatique, sur l'actualité Il y a un podcast de sécurité informatique qui s'appelle Le Comptoir Sécu. Qui marche très fort. Il y a un podcast qui s'appelle Anti-brouillard, justement, pour essayer de décoder un petit peu l'actualité de la tech. Il marche très fort aussi. Le rendez-vous tech donc de Patrick Béja. Donc voilà, tout ça, c'est des podcasts qui nous apprennent des choses. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui écoutent pour cette raison-là.
Et la bonne régularité pour pouvoir apprendre, c'est hebdomadaire, c'est mensuel.
Alors, c'est assez variable. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que quel que soit le format aujourd'hui, on se rend compte que ce qui marche le mieux, c'est une régularité entre une semaine et 15 jours. Mensuel, c'est un peu lent comme fréquence, et quotidienne, alors c'est bien, mais il faut être capable de la tenir. Il n'y a pas beaucoup de podcasts qui aujourd'hui sont quotidiens. Il y en a quelques-uns, ça se compte peut-être sur les doigts d'une main, peut-être de deux maintenant, parce que c'est un travail pour le coup. Qui se rapproche plus d'un travail journalistique.
Est-ce qu'un expert dans un domaine, un organisme de formation, aurait intérêt à faire un podcast?
Ah, moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a intérêt à faire un podcast. Non pas parce que, comment dire, c'est facile et que voilà, tout le monde a intérêt à faire un podcast. D'abord parce que ça conduit à se poser la question de savoir ce qu'on veut dire, quand, comment, pourquoi. À travers ce format-là, qui encore une fois a comme spécificité aujourd'hui, là, peut-être ça ne durera pas, hein, mais qui a comme spécificité de nous donner la possibilité de s'adresser pendant 15-20 minutes à quelqu'un. Voilà. C'est à peu près le seul format qui aujourd'hui permet de dire, de soutenir l'attention de quelqu'un pendant 15-20 minutes. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant dans ce format, c'est de dire, bah voilà, si moi je veux faire du podcast aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à raconter, qu'est-ce que je peux apporter comme information? Je vais donner un exemple tout simple, parce que c'est pas tout à fait un organisme de formation, mais il y a un cabinet d'avocats dans les Vosges, je crois, dans le Jura, qui a décidé de faire un podcast. C'est un cabinet d'avocats spécialisé en divorce. Voilà, ça s'appelle Parlons divorce avec Karine. C'est pas très gay, voilà, mais
C'est une
c'est
thématique.
voilà d'une quinzaine de minutes qui aborde des sujets sur des avec des questions que tout le monde se pose. C'est en fait l'avocate qui s'appelle Karine et qui remet les choses un peu dans le contexte et qui apporte des réponses à la fois techniques, parfois de bon sens, aux questions que les gens se posent sur le sujet du divorce. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une prestation compensatoire? Est-ce qu'elle marche à tous les coups? Comment on fait avec les enfants? Le partage d'un bien immobilier commun, etc., etc. Ça dure 10-15 minutes et ça apporte une information enfin, voilà, précise qui est en un sens en circuit court, c'est-à-dire qui n'a pas été intermédiée par un journaliste, une rédaction, etc. Donc, il y a directement du producteur à l'oreille du consommateur. Enfin, ça, c'est des choses qui fonctionnent assez bien aujourd'hui. Et donc, voilà, ça, c'est par exemple une initiative qui est très spéciale, hein, mais qui me paraît relativement intéressante et pertinente pour ça. Après, sur un organisme de formation, ça dépend si on veut faire du podcast d'un outil de un peu de prospection, de pour montrer justement un peu l'expertise, ce qu'on sait faire, les sujets qu'on est capable de travailler, à destination d'une cible plutôt de clients qui pourraient du coup être séduits par cette manière de voir les choses. Ou si au contraire on veut plutôt s'adresser aux formés, aux gens qui seront peut-être demain le public qu'on devra former, et où on veut en fait les sensibiliser à la pertinence de la formation pour qu'ensuite eux-mêmes soient en demande de formation. Voilà, tout ça demande de se poser un peu la question du message
C'est
qu'on veut faire.
d'écrire une ligne éditoriale qui repose à la fois sur...
Exact.
Voilà, très bien.
Exactement. On ne peut pas demander à des gens de nous écouter pendant 15, 20, 25 ou 30 minutes. On ne peut pas leur demander cet effort-là aujourd'hui sans être extrêmement précis et convaincu de sa ligne éditoriale et du message, de l'histoire en fait. Moi, je parle vraiment d'histoire, de l'histoire qu'on veut raconter. Là, c'est la question, c'est quelle histoire autour de la formation et quelles histoires de formation on veut raconter.
Et en quoi l'histoire est utile à celui qui va l'écouter?
Exactement, exactement, parce que les gens, en fait, on a toujours l'impression que ces gens-là, donc je rappelle, hein, le portrait robot, c'est quelqu'un qui a entre 25 et 35 ans, qui habite dans une ville de plus de 100 000 habitants, qui est plutôt diplômé. On a l'impression que ces gens-là sont en publicité, les publicitaires, ils appellent ces gens-là les intouchables. On a l'impression que c'est des gens qu'on n'arrive jamais à toucher parce qu'ils sont sursollicités et qu'en plus, comme ils sont plutôt matures dans leur pratique numérique, c'est eux qui choisissent. Ils bloquent la pub ou ils bloquent pas la pub, ils configurent leur cercle d'amis ou de confidentialité sur les réseaux. Donc c'est des gens, on se dit, on ne sait pas comment les toucher. Bah, il se trouve que c'est la plus forte progression, enfin c'est une énorme progression auprès de cette cible-là de consommation de médias, c'est le podcast natif. Donc c'est génial, c'est une super opportunité. Simplement, voilà, qu'est-ce qu'on va leur dire? Ils sont prêts à nous laisser 15, 20, 30 minutes du temps de leur attention? Et de le faire en plus de façon régulière, de revenir toutes les semaines, voire tous les 15 jours, sur plusieurs mois. Voilà, c'est très précieux ça. C'est très très précieux. Et donc ça suppose de savoir précisément ce qu'on veut raconter comme histoire.
Absolument. Merci beaucoup, Thibault de Saint-Maurice. On va regarder et on mettra les liens pour que tout le monde puisse les télécharger. Et tout le monde, j'invite tout le monde à aller à la prochaine, au prochain festival qui aura lieu. Vers quelle période?
Alors, ils ont un peu de temps, hein, parce que ce sera octobre 2020.
Oui, mais il faut anticiper. Il faut anticiper, sinon on aura
Voilà.
l'occasion de reparler. En tout cas, merci d'avoir désacralisé cet outil-là pour le rendre accessible à ceux qui ont envie de dire des choses et qui ont des choses à dire. En tout cas, on relaiera et puis on n'hésitera pas à en revenir dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous des notes de l'émission. Et dans ces cas-là, on retransmettra bien volontiers. Thibault de Saint-Maurice, si on veut vous contacter, comment est-ce qu'on fait?
Eh ben, en fait, sur le site du Paris Podcast Festival, il y a une adresse mail que vous pouvez utiliser. Et sinon, mon profil LinkedIn est tout à fait ouvert. Donc voilà, c'est un outil professionnel de contact sans difficulté.
Merci beaucoup. Au revoir à
Merci
tous.
bien. Au revoir.